Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Belinda Bosuma. Examen national de fin d'études primaires ENAFEP en RDC. Deuxième et dernier jour ce mardi. À Lubumbashi hier, la plupart des élèves ont quitté la salle avec satisfaction et à Matadi, la seule école des enfants malentendants est sur le point de fermer pour cause sa non-prise en charge par l'État congolais. Majoration du prix des transports en commun à Matadi. Augmentation consécutive à la hausse du prix de carburant depuis le week-end passé. Le litre est passé de 3 250 à 3 700 francs congolais. La décision de majorer le prix de la course en taxi a été prise hier au cours d'une réunion de crise. Et puis, au Nord Kivu, les affrontements opposant les FARDC et alliés aux rebelles du M23 se sont poursuivis hier autour de Kanyabayonga et cela dure depuis plus d'une semaine. Les casques bleus onusiens apportent leur appui dans ces combats. Pour en parler, nous recevons le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. À tous et à toutes, bonjour. Examen national de fin d'études primaires ENAFEP, la première journée hier, a vécu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. La plupart des élèves ont quitté la salle avec le sentiment de satisfaction. Certains que Radio Kapi a rencontrés au centre-ville de Lubumbashi ont donné leurs avis avec des projections sur les points qu'ils ont réalisés. Ils s'expriment au micro de Jean Gandou.
C'était bien et c'était facile, en même temps un peu difficile.
Elle était facile. Bon, j'ai réussi presque tout.
Facile. J'ai pris ma feuille, j'ai lu, j'ai pris ce que j'avais étudié, j'ai mémorisé, j'ai pris mon brouillon, j'ai écrit toutes les réponses que j'avais.
Facile.
C'était facile. Bon, c'était plutôt facile, on nous a posé la question, la rage nous est donnée par quel animal, j'ai répondu les chiens, la vie à prendre question la deuxième, et j'ai réussi aussi. Bon, moi j'ai trouvé l'examen facile, mais là où j'ai trouvé que c'était compliqué, c'était faire les dernières questions. Je savais pas quoi répondre là-bas. Je suis sûr que j'aurais, bon, même sur 25, je suis sûr que j'aurais même 20, même 22. Moi, sur 25, même 20, 21.
J'aurais 24 sur 25.
23 sur 25.
Moi, je crois que j'aurais 23 sur 25.
Moi, peut-être 21.
Moi, peut-être 22 ou 23.
Pendant ce temps, à Matadi, la seule école des enfants malentendants est sur le point de fermer à cause de sa non-prise en charge par l'État congolais. D'après le responsable de cette école, l'abbé coordonnateur Jean-Jacques Diafouka, c'est depuis janvier que les enseignants, démotivés par le non-paiement, ont séché les cours alors que les élèves, eux, viennent quand même. Le responsable de cette école des malentendants indique que les démarches sont entreprises depuis 2019 pour la mécanisation de l'école, mais la prise en charge des enseignants s'est fait toujours attendre. Nana Plurichement.
D'après l'abbé coordonnateur du complexe scolaire Espérance, depuis le congé de Noël de l'année 2023, les enseignants ne se présentent plus à l'école. Ces encadreurs des enfants sourds muets démotivés sont au nombre de 65. Ils sont non payés depuis 2021, année marquant la fin de l'appui financier de la Caritas Autriche à cette école. L'absence de ces enseignants compromet l'encadrement de près de 150 élèves malentendants qui fréquentent cette unique institution viable d'enseignement spécialisé de la province du Congo central, laquelle organise deux classes de la maternelle, 8 du primaire et 8 du secondaire. Et pourtant, selon l'abbé coordonnateur Jean-Jacques Diafouka, certains parmi ces élèves insuffisamment encadrés devront affronter l'examen d'État, l'ENAFEP ainsi que le TENASOSP. Ces derniers appellent le nouveau gouvernement à placer la préoccupation de cette école parmi ses priorités de l'année 2024 pour permettre aux enfants malentendants de Matadi d'étudier en bonne et due forme. Rappelons que le complexe scolaire Espérance des enfants malentendants est construit par la Caritas Matadi avec un financement de la Caritas Autriche. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Enseignement toujours, chevauchement des années académiques, des années élastiques. Le phénomène est courant dans certains instituts supérieurs et universitaires publics à Kinshasa. Mais comment se présente la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fait au niveau interne pour y mettre fin? Nous avons pris pour cela deux institutions, l'Université de Kinshasa et l'Université nationale des bâtiments et travaux publics, UNBTP. Réponse dans ce reportage de John Chibouaboua.
À l'université
Nikin.
Le chevauchement des années académiques est courant. Le professeur Charles Odiko, secrétaire général académique.
Aujourd'hui, on fait tout pour qu'il n'y ait plus de chevauchement. Dans certaines facultés, on a réussi. Dans 2-3, médecine vétérinaire et droit. Nous connaissons encore quelques difficultés. Les cours sont suffisamment avancés pour 2023-2024.
À la base,
la faculté de droit, qui a plus de 20 promotions, n'avait que 4 auditoires. Les profs qui ne savent pas donner cours dans les délais, les étudiants ne travaillent plus sur base des contraintes de temps. Lorsque la PUCIL décrète les grèves, il y a des facultés qui ne vont pas en grève.
Parmi les pistes des solutions,
on a décrété pour certaines promotions des années blanches. On a retrouvé quelques locaux qu'on a attribués aux facultés. Organiser la suppléance lorsque un professeur n'a pas du temps.
À l'UNBTP, ce phénomène est récent, nous dit John Kalala, son secrétaire général académique.
Depuis 1962, il n'y a jamais eu deux années élastiques, sauf cette année.
Et cela est dû à...
L'année passée, il y a eu des perturbations au niveau des étudiants qui ne voulaient pas payer les frais académiques. Cette bouillabaisse nous a pris 2 mois.
Pour rattraper le temps perdu, plusieurs autres institutions, notamment l'UPN, sont bités à ces problèmes.
L'éducation est le moteur du développement en tenant compte des besoins du pays. C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil économique et social. C'était le jeudi dernier à la clôture de la session d'avril qui était essentiellement budgétaire. Jean-Pierre Kiwakana, qui s'est aussi exprimé sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, qui demeure préoccupante, appelle le gouvernement à investir dans l'éducation. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rongmouchinj.
Avant de clore mon propos, laissez-moi vous réaffirmer un principe sacro-saint dont on ne peut se passer. Développer un pays passe nécessairement par un État fort, discipliné, organisé, permettant l'éclosion d'un secteur privé optimiste et prospère. Au chemin de croix lié aux tracasseries innombrables rencontrées à tous les niveaux par l'entrepreneur, s'ajoute la difficulté de recruter du personnel qualifié, intègre et correctement formé. Cela nous amène à ce que nous avons toujours soutenu, c'est que l'éducation a toujours été au cœur des discours que j'ai eu l'honneur de tenir devant vous. Je ne ferai donc pas exception aujourd'hui. L'éducation est l'élément moteur principal du développement. Un système éducatif efficace et pertinent en rapport avec nos besoins. La qualité du système éducatif est alarmante. Il nous faut agir maintenant afin d'espérer atteindre d'ici 2030 une masse critique de main-d'œuvre en adéquation avec notre stratégie de développement.
Et puis, renforcer au niveau central les capacités des cadres des ministères du secteur de l'éducation et de la formation dans le domaine de la programmation qui permettrait le passage des budgets des programmes en lieu et place des budgets des moyens. Tel est l'objectif de la 3e session de l'atelier ouvert hier à Kinshasa, organisée par le secrétariat permanent d'appui du secteur de l'éducation en collaboration avec l'UNESCO. Cet atelier permettra d'élaborer le plan de travail triennal budgétisé 2024. 2026 de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. On écoute les explications de Saïp Si, chef de section éducation de l'UNESCO en RDC. Il est au micro de Jeff Opela.
Nous avons pu dérouler donc une série de modules qui va être complétée durant les 5 prochains jours par d'autres modules complémentaires afin de pouvoir faire bénéficier aux différents ministères en charge de l'éducation, d'un paquet de ressources qui permettra, favorisera le suivi, d'abord la planification budgétaire, le suivi et la gestion au niveau budgétaire. Et on le sait que la RDC est dans un processus de réforme budgétaire et ce serait bien que les différents ministères en charge de l'éducation puissent être dans le diapason, donc dans le feu de l'action. Et nous essayons de réitérer ici, en tant qu'UNESCO, l'assiduité des différents participants parce que c'est des modules dans lesquels nous avons beaucoup insister. Ça, c'est la première cohorte. Ça va permettre à la rentrée au mois de septembre de démarrer avec la deuxième cohorte.
Notez que cet atelier se poursuit jusqu'au samedi 8 juin 2024. Je vous l'ai dit dans les titres, à Matadi au Congo central, le prix de la course en taxi et à moto passe de 600 à 700 francs congolais. Cette augmentation est consécutive à une hausse du prix de carburant observée depuis le week-end passé à Matadi, dont le litre est passé de 3250 à 3700 francs. La décision de majorer le prix de la course a été prise hier au cours d'une réunion de crise présidée par le ministre provincial des Transports. Cette rencontre, occasionnée par un mouvement spontané de grève des transporteurs urbains, a connu la participation des responsables de plusieurs structures du secteur des transports, dont l'Association des chauffeurs du Congo et l'Association des motocyclistes du Congo central. Le ministre provincial des Transports du Congo central, Mac Matondo, donne des détails au micro de Nana Plurish Mambo.
Hausse du prix du litre à la station et que nos amis conducteurs voulaient également revoir la tarification de la course au niveau de la ville et pourquoi pas au niveau de la province. Donc nous venons d'arrêter quelques mesures conservatoires que nous venons de prendre là. Et déjà, il y a une commission qui est mise en place. La commission va étudier et nous faire rapport dans un bref délai. Mais pour ce qui est de l'augmentation des transports, dans un premier temps, actuellement, les coûts du billet est fixé d'abord à 700 francs en attendant que la commission puisse livrer rapidement son travail qui sera chapeauté par la mairie de Matadi. Oui, à la population, je crois que nous sommes au service de cette même population et de la République. Donc, nous venons de prendre des mesures pour ne pas léser ni les chauffeurs ni la population dans l'ensemble. Donc, les mesures que nous venons de prendre, ce sont des mesures conservatoires. Les jours à venir, nous allons vous livrer tout ce qui va être pris dans la commission qui sera chapeautée par M. le maire de la ville, ainsi que la partie ASECO, parce qu'aujourd'hui c'est ASECO qui était plus concerné.
Rendons-nous dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Les leaders communautaires de la chefferie des Bachou appellent le nouveau gouvernement congolais à songer à l'industrialisation de cette chefferie à vocation agricole. Pour ces leaders, industrialiser la zone agricole des Bachou, un grenier agricole de la région, élèverait et valoriserait la production agricole dans cette région. Cela contribuerait également à la pacification de la région en donnant du travail aux jeunes qui ne trouveraient plus la Libye pour s'enrôler dans les groupes armés locaux faute d'occupation. L'un des leaders communautaires de la chefferie de Bachou explique, Sadam Patangouli, joint par Marc Marofimbo.
Ce que nous pouvons demander au nouveau gouvernement, c'est d'abord de pacifier la zone complètement, de mettre des moyens à jeu, d'investir dans la zone parce que nous avons la terre qui n'a pas besoin d'engrais, la terre qui est en tout cas arable, et tout ce que nous demandons, c'est la paix. Et une fois la paix rétablie, il faut que le gouvernement investisse, amène des industries, des usines de transformation, des denrées alimentaires, et que la jeunesse soit pleinement occupée. Parce que nous avons une jeunesse qui est courageuse, une jeunesse qui se donne au moins aux études malgré la situation dans la région, mais une jeunesse qui n'est pas occupée après les études, et cela arrive à décourager certains parents parce qu'ils pensent qu'ils investissent dans le néant. C'est que le gouvernement devrait en tout cas mettre en avant la valorisation de la jeunesse, l'occupation de la jeunesse, la création d'emplois pour les jeunes.
Pendant ce temps, la population de la pêcherie de Vichumbi sur le lac Édouard, dans le territoire de Rutshuru, nous sommes toujours au Nord Kivu, éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable et eau, autres denrées alimentaires depuis plus de 2 mois, selon le coordonnateur de l'ONG Jeunesse Élite Ressortissante de Virunga, Gervi en sigle. Cette situation est consécutive au combat entre les FARDC et les rebelles du M23 dans la région, ce qui ne permet pas à la population de s'y ravitailler en eau potable et autres denrées alimentaires dans certaines entités voisines occupées par le M23. Richard Kassereka plaide pour une assistance à cette population et sollicite auprès des autorités militaires la réouverture de tous les tronçons routiers fermés. On l'écoute, il est joint par André Kitenge.
Suite à cette situation de la guerre qui est en train de s'épanouir dans le territoire de Rutshuru, cette population de Vichumbi est en train de traverser un problème de manque de l'eau potable et ce qui est de denrées alimentaires. Parce que tous les tronçons où on a levé ces derniers ont été bloqués par les autorités militaires. Et comme on a souvent dit que l'eau c'est la vie, cette paisible population consomme l'eau impropre du lac Édouard. Malheureusement, une pratique qui leur expose à des maladies hydriques. Vit toute cette douleur et risque que cette population de Vichumbi est en train de traverser, nous lançons un cri d'alarme et nous demandons aux autorités de pouvoir prendre les mesures nécessaires en fait de pallier à ces problèmes. Surtout de réouvrir tous les trafics pourvu que cette population se ravitaille facilement de l'eau potable et des denrées alimentaires. Mais aussi, nous sollicitons les ONG de venir en aide pour cette population sur place.
Actualité internationale. Israël pleure ce mardi la mort de 4 otages dans la bande de Gaza, à l'heure où les doutes croissent sur les chances d'aboutir d'un plan de cessez-le-feu annoncé par le président américain Joe Biden. Au Nigeria, après une journée de grève générale, le gouvernement appelle les syndicats à poursuivre les discussions sur le salaire minimum afin de parvenir à une solution pacifique. En effet, la vie du Nigeria est fortement perturbée avec notamment une coupure du réseau national d'électricité et une perturbation du trafic aérien.
L'invité.
Il s'agit du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Le lieutenant-colonel Kedagni Mensa nous parle du soutien de la force onusienne au FARDC dans les affrontements contre la rébellion du M23 autour de Kanyabayonga. Notamment, le lieutenant-colonel Kedagni Mensa est avec Bernardin Nyangi.
Lieutenant-colonel Kedagni Mensa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jalis.
Commençons d'abord par les opérations qui sont menées dans le cadre des affrontements entre les M23 RDF contre les FARDC. Que pouvez-vous nous dire du soutien qu'apporte la MONUSCO effectivement dans ce cadre-là?
Les affrontements entre le M23 RDF et les forces de la coalition des FARDC ont été signalés à partir du 27 mai 2024 dans la zone nord de Kabanyanga. En réponse, la MONUSCO a multiplié ses patrouilles de domination de zones de jour comme de nuit dans les environs de Kabanyanga afin de protéger la communauté locale déplacée qui est victime de ces affrontements. En raison de ces affrontements et de la détérioration de la situation sécuritaire, la brigade d'intervention de la force fournit un soutien aux personnes déplacées à travers la sécurisation d'itinéraires humanitaires et la protection des civils vulnérables et un soutien limité aux FARDC. Le bataillon Malawit de la MONUSCO effectue régulièrement des patrouilles de domination et de reconnaissance aérienne de la zone pour réagir rapidement à tout incident fâcheux. La force de la MONUSCO est déterminée à remplir son mandat de protection des civils.
Et du côté de l'Ituri, il y a une opération qui est en cours, dénommée Chang Gong, lancée depuis le 20 mai 2024. Qu'est-ce que nous pouvons en retenir?
Le 20 mai 2024, la brigade d'intervention de la MONUSCO, en coordination avec les FARDC, ont lancé une opération conjointe dénommée Chang Gong. Cette opération conjointe a été lancée en réponse à la situation sécuritaire instable dans la province de l'Ituri afin de dissuader les activités des groupes armés ADF et d'empêcher tout autre groupe armé illégal la liberté de mouvement dans les zones situées entre Mbo, Masuku et Sambuku. Le 24 mai 2024, une réunion avec les principaux responsables locaux a été menée au village Mamouvé dans le but de gagner la confiance de la communauté locale pendant l'opération et d'intégrer leurs préoccupations en matière de sécurité dans la planification de l'opération. Dans ce cadre, la première base d'opération mobile a commencé ses opérations le 25 mai 2024. L'opération couvre l'AS Mamouvé, Sambouké, ainsi que les AS Mbo, Masuku, Kudukudu, Mandumbi. Actuellement, la force de réaction rapide kenyane a été déployée à Mamouvé et jusqu'à présent, elle a mené plusieurs patrouilles conjointes de domination de zone et des opérations ciblées avec les forces de sécurité locales ainsi qu'avec le concours des principaux responsables locaux sur l'AS Mamouvé et Sambouké. Elle a pris le contrôle de l'AS Mamouvé, Malimbo, Mouloulia, Sembobo pour assurer la protection des civils et dissuader les groupes armés de toute nouvelle activité criminelle contre les civils. Le 29 mai 2024, une autre patrouille a été envoyée sur l'AS Mamouvé, Maliyama pour la protection des civils. De jour comme de nuit, la situation sécuritaire de Mamouvé et Sambouké est restée sous contrôle depuis le début de l'opération. La population locale de Mamouvé et les forces de sécurité locales ont été très coopératives avec la MONUSCO dans cette opération. Avec précision et détermination, les forces conjointes ont progressé avec pour objectif de démanteler l'emprise oppressive des combattants ADF et d'assurer un environnement sûr et stable pour toutes les populations locales. Mais au-delà de cette opération, l'engagement de la MONUSCO envers la population de la province de l'Ituri demeure permanent.
Et pendant ce temps, il y a une formation pour terminer d'ailleurs, que conduit le contingent bangladais au profit des jeunes leaders. Ça se passe à Bounia. Qu'est-ce que nous pouvons savoir à ce sujet?
Oui, monsieur Jaz, le contingent bangladais de la MONUSCO a pris l'initiative de former des jeunes leaders à Bounia sur divers aspects techniques et de développement des compétences. Deux programmes de formation sont en cours, l'une pour les conducteurs de véhicules poids lourds, qui a démarré déjà du 27 mai au 14 juin 2024, et l'autre sur l'entretien et la réparation des groupes électrogènes du 27 mai au 4 juin. Les cours ont lieu de lundi, mardi et jeudi. À l'issue de ces formations, les participants seront dotés de compétences précieuses leur permettant de fournir des services essentiels à leur communauté. Des représentants du directeur de la division de la jeunesse, des dirigeants du conseil de la jeunesse de Bounia ainsi que des dirigeants des organisateurs communautaires ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Cette initiative souligne le rôle crucial de la MONUSCO en RDC, non seulement en termes de maintien de la paix et de la sécurité, mais aussi en tant qu'acteur clé dans le développement communautaire et le renforcement des capacités des jeunes dans le contexte du désengagement de la MONUSCO. Par ces actions, la MONUSCO contribue à créer un environnement meilleur et plus stable pour les populations locales.
Lieutenant-colonel Kedani Messa, merci.
Je vous remercie.
Le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO répondait aux questions de Bernardin Nyangui. Par ici prend fin ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.